Diva FM 04 91 44 00 43. Diva FM la radio 101.8.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre chronique juridique hebdomadaire « De quel droit ?». Chaque semaine, nous décortiquons une thématique, une notion ou une problématique juridique afin de vous informer sur votre droit, sur vos droits et vos moyens d'action. Alors, aujourd'hui, de quel droit allons-nous parler ? Précisément, on ne va pas parler d'un droit, mais d'un mandat. Le mandat de protection future. Alors, qu'est-ce qu'un mandat de protection future ? Quelle est la forme et l'étendue de ce mandat ? Et quelle est la date d'effet et la fin de celui-ci ? Voici des questions auxquelles je vais répondre, toujours en compagnie de la rayonnante Jennifer.
Merci pour la rayonnante. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes encore en compagnie de notre avocate spécialiste, maître Céline Lindeau, avocate à Marseille sur le Prado. Son cabinet se trouve au Prado. Et vous allez voir, c'est une grande spécialiste et elle nous aide à décortiquer plein de choses. Déjà que d'une, nous ne connaissions pas l'existence. Pour moi, c'est le cas pour ce thème aujourd'hui. Et elle nous permet bien de simplifier les choses et de savoir comment on peut les aborder. Et donc, ce mandat de protection future, nous allons tout de suite en parler. Qu'est-ce, cher maître ? Parce que sincèrement, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je ne savais même pas qu'on avait la possibilité de le faire.
Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce, il s'agit d'un contrat qui permet à toute personne majeure, qu'on va appeler le mandant, okay, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes qui seront qualifiées de mandataires, pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses propres intérêts personnels ou patrimoniaux. Donc, on est dans le cadre d'un mandat qui peut être très spécifique ou un peu plus général. Et l'idée, c'est que la personne qui sollicite une protection pour l'avenir prévoit une assistance soit dans sa vie personnelle, à partir du moment où elle ne sera plus en capacité de prendre des décisions pour elle-même, capacité physique ou mentale, hein. Donc une assistance dans la vie personnelle, mais également elle peut prévoir cette personne une assistance dans la gestion de son patrimoine. Donc l'un n'exclut pas l'autre, il peut y avoir les deux volets qui sont prévus dans ce mandat, ou alors la personne peut simplement prévoir une assistance pour ses besoins d'ordre personnel.
Vous conseilleriez, maître, de se pencher sur un tel mandat à partir d'un certain âge où, finalement, rien ne nous met à l'abri. Ça peut arriver à des personnes qui ont 30 ans comme des personnes qui sont bien plus âgées.
Et oui, alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que lorsqu'on pense à la dégradation de l'état de santé, on pense systématiquement à la vieillesse, à la sénilité.
C'est ce qu'on s'imagine tous.
Mais malheureusement, la vie est parfois pleine de mauvaises surprises et d'événements que l'on n'a pas prévus, tels que des accidents, qui peuvent du coup dégrader l'état de santé d'une personne et la rendre incapable de gérer sa vie perso ou personnelle ou patrimoniale. Donc il n'y a pas d'âge du tout pour contracter ce type de mandat. Les conditions qui sont requises pour pouvoir contracter, c'est d'être majeur déjà.
Ce que vous avez dit, ouais.
Voilà. Donc, soit on contracte pour soi, donc c'est un mandat de protection future pour soi, ouais. Soit on contracte pour autrui. Alors, autrui, ah bon ? Ça va être, par exemple, le cas d'une personne qui élève un enfant handicapé. Elle prévoit, dans le cas où elle-même ne serait plus en mesure d'assurer les besoins de son enfant, ah bon ? Lorsqu'il sera majeur, elle peut anticiper et désigner une personne qui va gérer les besoins personnels ou qui va gérer donc le patrimoine
pour cet enfant,
qui ne sera pas lui-même en capacité de le faire.
D'accord, c'est fort intéressant parce que malheureusement, ces situations sont bien réelles et existantes. Et c'est vrai que souvent, les parents ont ce poids, cette charge, ce souci de se dire à qui donner la responsabilité. Souvent, ben, quand il y a une fratrie, ça s'impose aux frères ou aux sœurs ou à d'autres membres. Mais c'est vrai que c'est un sacerdoce parce qu'on se dit, mon Dieu, on n'est pas éternel. Et dans la logique, qui pourra s'occuper de ces personnes? Donc, on peut prévoir. Donc, dans ce cas-là, on mandate quelqu'un pour... Le mandant qui serait l'enfant handicapé.
Voilà, c'est d'accord. Ça. Et alors, dans les deux cas, que l'on contracte pour soi ou pour autrui, le mandataire, donc la personne qui va protéger, qui va protéger l'autre personne, il peut s'agir d'un proche, il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami, il peut même s'agir d'un professionnel.
Il ne faut pas que ça soit un ascendant ou un descendant obligatoirement. Ça
non,
peut être,
non, il n'y a pas d'obligation. Véritablement, là, c'est à la discrétion de la personne qui souhaite être protégée. C'est un rapport de confiance intense, donc ça peut être un proche, mais ça peut être aussi un professionnel, à savoir un mandataire judiciaire, les personnes qui sont désignées pour assurer les tutelles, pour gérer les tutelles, les curatelles. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a aucune
obligation sur la désignation.
Voilà. Si ce n'est que la personne doit être capable juridiquement d'assurer cette fonction, donc elle ne doit pas elle-même être placée sous tutelle et elle doit être majeure.
Enfin, en voilà. Pleine capacité elle aussi.
Exactement.
Bon, du coup, on a bien déterminé le mandat de protection future. C'est quelque chose qui nous permet de nous garantir et bien sûr une situation qui pourrait d'un coup basculer, que nous ne sommes plus en capacité, vous disiez physique ou mentale, d'assurer nos décision et de désigner un mandataire qui le fasse à notre place. Ce mandataire n'est pas obligatoirement quelqu'un de son entourage familial. Il peut être juste une personne de confiance. Et ce que vous disiez, le mandant n'est pas forcément que pour soi-même cette décision, mais si vous avez un enfant qui est à votre charge parce qu'il n'a pas toutes ses capacités, eh bien, vous pouvez le faire pour cet enfant-là. Donc, c'est une très bonne chose. Merci, Maître, vraiment, d'avoir pris ce sujet. Je suis certaine que ça peut aider des personnes qui sont dans cette situation. Alors, vis-à-vis du mandataire, on a choisi la personne. Vous disiez, il faut qu'elle aussi, elle soit majeure, qu'elle soit en pleine possession, qu'elle soit pas sous tutelle. Donc, on choisit cela. Comment ça se passe dans la procédure? Est-ce qu'il faut venir vous voir, Maître? Est-ce qu'il faut aller voir un notaire? Avec qui ça se passe tout cela?
Alors, donc là, on approche le formalisme de ce mandat. Alors, il faut savoir que en la matière, la forme va avoir une influence sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Il y a plusieurs possibilités. Soit on contracte un mandat sous seing privé, c'est-à-dire que on se réunit, le mandant et le mandataire signe le contrat, et soit ils le font enregistrer au service des recettes, des impôts. C'est un formulaire CERFA que l'on dépose pour qu'il soit enregistré et qu'il ait une valeur, notamment sur la date à laquelle il aura été signé. Soit c'est un contrat sous seing privé qui va être contresigné par un avocat. Donc, dans ce cadre-là, contrat sous seing privé, quel est le pouvoir du mandataire? Le mandataire aura ce qu'on appelle un pouvoir d'administration, c'est-à-dire que, notamment sur la gestion des biens immobiliers, du patrimoine immobilier du mandant, le mandataire n'aura pas la possibilité de vendre le bien, d'accord? Il faudra solliciter l'accord d'un juge, le juge qu'on appelle le juge des contentieux de la protection.
Il n'y a pas quand même une pleine liberté
de
protection. Quand
surtout pour ce type de formalisme où on est sous seing privé. Donc le mandataire aura un pouvoir d'administration, à savoir de par gestion. Exemple, renouveler un bail notamment. Bon.
De payer les charges, le foncier, les trucs comme ça. Mais en aucun cas, prendre la décision de vendre.
Exactement.
Voilà. Ça,
il ne pourra pas le faire sauf accord d'un juge. Donc, il faut savoir que c'est le mandant qui choisit la forme et donc l'étendue des pouvoirs du mandataire. Et donc, c'est lui qui va aussi, et ça, c'est un conseil qu'il faut donner aux personnes qui entendent contracter ce type de mandat, c'est qu'il faut être très précis dans ce que l'on attend, dans les souhaits que l'on émet pour sa protection future. Et ça peut être vraiment très, c'est très varié. Ça peut aller des loisirs que l'on voudra continuer à faire lorsqu'on ne sera peut-être plus capable de l'exprimer, des sorties régulières au parc. Ça peut être le maintien de relations personnelles avec telle ou telle personne. Voilà.
Ça peut être même que des volontés de bien-être, en quelque sorte.
Exactement.
Voilà, c'est pas que du financier, ce n'est pas que de la gestion. Ça peut être vraiment aussi, voilà, ce qui concerne socialement la personne.
Tout à fait, tout à fait. Et ça peut être aussi des préconisations sur les décisions médicales. Alors là, c'est très important, puisque aujourd'hui, il y a la question de la fin de vie, des directives anticipées. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité. Et ce mandat permet à la personne qui veut anticiper tout besoin et qui veut surtout évacuer tout litige sur une éventuelle prise de décision, donc de mettre noir sur blanc quelles sont ses volontés. Alors, il faut
pas
savoir
d'acharnement
que...
thérapeutique, des choses comme ça.
Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que le mandataire n'aura pas non plus droit de vie ou de mort hein, sur le mandat, sur le mandant. Le corps médical reste décisionnaire, bien sûr, mais va recueillir l'avis du mandataire, lequel se prévaudra de toute façon du contrat.
Généralement, hein. De toute façon, le mandataire, il sera là pour exprimer les volontés du mandant. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, mettons, un acharnement thérapeutique, de la réanimation, du maintien en
Exactement.
Vie par assistance respiratoire, par des machines, voilà. Mais en aucun cas, il pourra dire, hop, stoppez tout.
Voilà.
Et laissez partir monsieur ou madame.
Exactement, bon. Exactement. Donc, c'est très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, après, je vais évoquer la deuxième forme, le deuxième formalisme hein, du mandat de protection future. Mais il faut savoir que le mandataire, même sous la forme privée, hein, de contrat sous seing privé, a une obligation de rendre compte, c'est-à-dire qu'en fait, annuellement, alors déjà, au début de son mandat, il doit dresser un inventaire hein, des biens qui composent le patrimoine du mandant. Et chaque année, il doit dresser un compte annuel.
On va dire un bilan des choses.
Exactement. Et conserver les éléments de gestion durant 5 ans. Bon. Voilà. Donc ça, c'était la première possibilité de contractualiser ce mandat.
Dans le deuxième type, maître, avant que vous l'abordiez, ça sera les mêmes obligations pour le mandant ?
Oui, il y a toujours la même obligation.
Alors, on les abordera tout à l'heure. Alors, allez-y sur le deuxième.
Donc, la deuxième possibilité, c'est de procéder par acte notarié, c'est-à-dire qu'on va demander au notaire d'authentifier le mandat de protection future. Et alors, ça a un impact, ce choix. Voilà, sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Celui-ci pourra effectivement prendre la décision, notamment de vendre des biens immobiliers. Alors, s'il s'agit de la résidence principale du mandant, il y aura toujours nécessité de recueillir l'accord d'un magistrat. Hein. Voilà, il a des prérogatives beaucoup plus étendues. Et il aura l'obligation, ce mandataire, de rendre compte au notaire qui sera désigné par le mandant.
Ah là, les comptes, ils seront rendus donc
voilà.
Au notaire.
D'accord. Exactement. Annuellement, le mandataire doit rendre compte au notaire de l'activité, de la gestion hein, qui a été faite pour le compte du mandant. Et le notaire a un pouvoir et un devoir de contrôle. C'est-à-dire que s'il devait s'apercevoir qu'il y a un abus, eh bien, il doit alerter le juge des contentieux de la protection.
D'accord. Dans ce cas-là, cet acte notarié, comme tout acte au notaire, il est payant. Mais est-ce qu'après, le moment où on n'est plus en capacité de prendre les décisions, est-ce que ça a un coût annuel ?
Alors, c'est effectivement une question que se posent les personnes qui s'engagent hein, dans ce type de d'engagement, qui s'engagent dans ce type de mission, on va dire, de charge. C'est que, est-ce que c'est bénévole ou est-ce que c'est rémunéré ? Eh bien, les deux sont possibles. Il faut tout simplement le prévoir dans le cadre du mandat.
Comme ça, il n'y a pas de problème.
Voilà. Ça peut être une rémunération, ça peut être une indemnisation pour les frais qui seront exposés par le mandataire pour mener à bien sa mission.
Voilà. D'accord.
Donc voilà, c'est contractuel.
Ça dépendra de la relation qu'on a avec le mandant.
Exactement.
Et vis-à-vis du notaire, là, quand vous parlez d'acte notarié, est-ce qu'après, il faut aussi payer le notaire quand on fait ces fameux bilans annuels ?
Alors ça,
il faudrait demander au notaire.
Oui, hein. Ça, c'est chaque notaire qui va appliquer ses tarifs,
d'accord.
Voilà, en fonction du barème applicable.
Mais à se renseigner, de toute façon, tout en amont de tout ce qui va se décider, de se passer, de
toute manière. Voilà, hein, tout à fait.
Donc, dans ces deux, donc, on voit bien que dans ce type de mandat, donc mandat de protection future qui est là pour garantir vos volontés, en quelque sorte, s'il vous arrivait quelque chose, vos volontés, comme vous disiez, au niveau de la santé, de vos dernières volontés, mais aussi de ce qui pourrait eh bien, continuer à se dérouler le temps que vous soyez dans cette incapacité mentale ou physique, c'est-à-dire dans la gestion de vos biens, dans, vous disiez, même des sorties, des rencontres, que vous disiez, voilà, une fois par semaine, j'aime aller à cet endroit-là, ou rencontrer ces personnes-là, de maintenir ces volontés-là. Mmh. Voilà, donc ça, c'est à la charge du mandataire. Donc là, ce que vous disiez, quelle est l'obligation réelle au mandataire de réaliser tout ce qui est noté noir sur blanc.
Mais c'est un contrat. Donc à partir du moment où on signe un contrat, eh bien on est tenu par l'obligation à laquelle on
s'est... Sous les deux formes, hein, maître, hein, qu'il
oui.
soit sous contrat, sous sein privé ou sous acte notarié. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Donc le mandataire, à partir du moment où il s'engage, sauf à demander à être révoqué de sa charge, et je vais y venir, il doit faire en sorte que les volontés exprimées par le mandant soient respectées. Respecter.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une obligation. Alors de moyens, bien sûr, parce que peut-être que les souhaits exprimés par le mandant ne
sont
pas réalisables au moment où celui-ci perdra sa capacité.
Oui, donc on n'est pas condamnable entre guillemets, parce que là c'est pas possible.
Et voilà, si matériellement ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais par contre, le fait de devoir exercer sa charge avec bienveillance et probité, bon, ben voilà, ça c'est l'obligation de base pour pouvoir assurer ce type de fonction.
Qui du coup peut s'assurer en dehors du notaire, dans le deuxième cas, vous disiez avec l'acte notarié qu'ils font un bilan, et dans le contrat d'oustien privé, là aussi vous disiez il faut faire un compte rendu en quelque sorte.
Dans
celui qui est en contrat sous sein privé.
Ah oui, en fait, il y a...
Et là, c'est auprès de qui, vous disiez tout à l'heure ?
Alors, auprès de qui ? C'est la question. En fait, c'est par précaution. C'est une obligation, il faut tenir un compte annuel pour que, en cas de difficulté ou en cas de suspicion, on puisse justifier de la...
Mais là, ça reste personnel, entre
Mais là, ça reste personnel, on n'a pas
à le donner à quel qui que ce soit.
Exactement, si ce n'est au juge, bien sûr, du contentieux de la protection...
S'il le demandait.
Exactement.
Ah, d'accord, ok, donc ça, c'est bien la différence qu'avec le notaire, là, le notaire, lui, il vous demandera annuellement.
Voilà, d'accord. Et il alertera lui-même le juge des contentieux
y a quelque chose.
Voilà, s'il estime nécessaire. Par contre, il faut savoir que toute personne qui suspecte un abus ou toute personne intéressée peut saisir le juge hein, pour remettre en question
les deux formes.
Oui. Oui, tout à fait.
D'accord.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, parce que on évoque du coup les obligations du mandataire, mais la question, c'est aussi de se demander à partir de quand. Est-ce qu'il va devoir agir sur la base de ce... À partir de quand le mandat devient exécutoire ? Enfin, exécutoire.
Oui, on va dire qui va pouvoir dire c'est à ce moment-là que...
Eh oui, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que en général, on constate que l'état de santé du mandant se dégrade. Donc, c'est au mandataire de prendre l'initiative de solliciter un certificat médical auprès d'un médecin agréé. Il y a des listes.
C'est lui qui doit le faire ?
Oui, c'est lui. Bah oui, parce que c'est s'il veut pouvoir se prévaloir de ce mandat pour pouvoir intervenir dans les intérêts de son protégé, c'est à lui de prendre cette initiative-là. Il peut le faire conjointement au mandant, si son état le lui permet, il n'y a aucune difficulté, ils peuvent faire les démarches ensemble. Donc, il va solliciter un médecin agréé, donc il y a une liste établie par le procureur de la République, et le médecin doit constater, du coup, l'incapacité, la circonstancier également. Une fois que, une fois obtenu ce certificat médical, Le mandataire se rend au greffe du tribunal et demande un visa par le directeur de greffe pour que le mandat devienne, enfin, puisse être mis en œuvre. Et à partir de ce moment-là, une fois visé donc le certificat médical, le mandat peut être excipé, c'est-à-dire peut être justifié, produit par le mandataire en disant mais voilà, je viens au nom de monsieur.
On a le plein droit de, exactement, de pouvoir donc gérer.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il faut mettre conseiller aux personnes de solliciter ce mandat de protection future qu'aux personnes qui auraient des biens ou non, pas forcément?
Non, parce qu'on peut aussi prévoir des dispositions qui concernent simplement la vie quotidienne, hein, le bien-être, vous l'avez évoqué, voilà, tout à l'heure.
Oui.
Donc on peut ne pas avoir un patrimoine immobilier et avoir toutefois le besoin d'anticiper.
Voilà, non, parce que je voudrais pas que les personnes peut-être qui n'ont pas... peut-être de biens immobiliers, de se dire bon, mais c'est pas pour moi.
Mm-hmm.
Alors que oui.
Mais oui, hein, parce qu'il n'y a pas que. Enfin, la richesse ne se retrouve pas que dans la pierre, et parfois on est riche des relations.
Très belle philosophie que vous venez nous dire.
Voilà, des relations qu'on a nouées tout au long d'une vie et qu'on veut entretenir, ou on peut affectionner particulièrement un lieu qui rappelle de beaux moments de vie et donc désirer pouvoir y retourner de temps en temps, même si on n'a plus la capacité de conduire. Vous voyez,
voilà, ça peut être beaucoup de choses au final.
Oui, bon. Véritablement.
Alors, l'autre question, maître, que j'ai envie de vous poser, vous me direz si on arrive au bout de ce sujet, mais donc on est donc dans cette démarche, on a choisi notre mandataire en tant que nous mandants, du coup on prend bien la position de chacun. Le mandant, c'est celui qui va solliciter une personne pour eh bien être là, on va dire, la personne de confiance, si on peut dire, pour gérer aussi bien sa vie quotidienne en cas d'incapacité morale ou mentale ou physique. Mais une fois qu'on a désigné ce mandataire, imaginez, la relation se dégrade avant même. Comment ça peut se passer? Est-ce qu'on peut du coup changer? On n'est pas dans les obligations, maître? Comment ça se passe? C'est inquiétant parfois.
Et oui. Alors, comme tout contrat, il faut anticiper la fin de ce contrat. Donc, il faut savoir que le mandat peut être révoqué en amont de sa mise en œuvre, hein, tout simplement parce que le mandant se rétracte, ou le mandataire finalement également refuse.
D'avis.
Ah oui, tout
voilà,
à fait.
Parce que même la personne qui est désignée, peut-être au départ, elle se voyait dans cette situation, mais d'un coup se dit ah non, finalement, je n'arriverai pas.
Oui.
Donc on peut quand même, que ça soit l'un ou l'autre, changer d'avis.
Tout à fait. Donc ça, avant la mise en œuvre du mandat, on peut tout à fait le révoquer. Une fois que le mandat est en cours d'exécution, alors, il peut être également mis un terme à celui-ci pour plusieurs motifs. La personne peut être rétablie dans ses facultés physiques et mentales, déjà.
Ça serait une bonne chose.
Voilà, donc ça, ce serait la bonne nouvelle, et on en termine là, plus de mandat. Par contre, les autres hypothèses un petit peu moins gaies et optimistes, c'est le fait que le protégé soit placé sous tutelle. Donc ça, c'est un autre degré de protection. C'est le juge des tutelles qui le place sous tutelle ou sous curatelle. Hein. Bon, hop, ça met fin au mandat. Et là, on passe sous une autre protection qui est judiciaire. Et enfin, le décès, bien sûr, hein, met fin au contrat de l'un ou de l'autre des contractants. Et également le fait que l'un ou l'autre des contractants perde sa capacité. Le fait que le mandataire, perde lui-même sa capacité juridique.
Mais
et ses facultés.
Si le mandataire, maître, admettons, en cours d'exécution du mandat, se dit, mon Dieu, c'est trop pour moi. J'arrive pas à gérer. Peu importe la raison, d'un coup, je dis non, c'est plus pour moi. Comment ça se passe là?
Alors, bon, plusieurs hypothèses. Il peut engager sa responsabilité, effectivement, si on estime qu'il a mal accompli sa mission et qu'il a mis en péril les intérêts du protégé. Donc ça, c'est une première chose. Après, il peut prendre l'initiative lui-même hop, je me sens plus capable, je vais solliciter une protection d'un tiers, et là, on bascule dans la protection judiciaire, où il sera opportun de demander au juge des tutelles de protéger le majeur protégé par une autre voie que par le mandat. Et c'est ce qui permettra donc de révoquer ce mandat-là, si le juge prend la décision de le placer de placer la personne sous curatelle ou sous tutelle. Donc il y a toujours une possibilité.
Elle n'est pas pénalisable, la personne, si elle se sort de ce contrat ?
Bah, tout dépend des conditions. C'est-à-dire que si elle a fauté dans la gestion, oui. Après, si elle ne se sent plus capacité, on ne va pas la contraindre non plus. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. D'accord. Effectivement, c'est un engagement qui est très important. Donc, bien sûr, faut le mesurer avant de le souscrire. Mais dans tous les cas, si à la fin, les conditions ne sont plus réunies pour assurer cette fonction, il vaut mieux anticiper et discuter. Comme dans toute situation, on trouve d'abord une solution.
Oui, de ne pas se sentir asphyxié par la charge.
Voilà, parce que sinon on fait mal les choses et après on engage sa responsabilité.
Maître, de toute manière, vous conseilleriez donc à quelque part, j'ai envie de dire, à tout à chacun de prendre peut-être ces dispositions dans cette forme de protection, puisqu'il se nomme bien, c'est le mandat de protection future. Quelque part, à partir du moment qu'on est majeur, rien ne nous empêche de prendre cette initiative pour, au moins que nos volontés, nos dernières volontés, qu'elles soient, vous disiez, au niveau de la santé ou au niveau de la gestion même de son patrimoine. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que même sur les enfants, s'ils sont mineurs, est-ce que là, le mandataire, il peut être désigné là aussi ou pas ?
Non.
Si on est jeune.
Non, pour les mineurs, c'est le juge des
tutelles. Là, c'est le juge qui prend les décisions. Bon, d'accord. Non, mais c'est bien pour savoir.
C'est à partir de la majorité de l'enfant que cette mesure est possible. Par contre, oui, bien sûr que moi, je ne peux qu'inviter les personnes à anticiper d'ordre général, tous les risques, il n'y a pas de risque zéro. Mais si on peut éviter justement que...
Les surprises.
Alors oui.
Les mauvaises surprises
et surtout les mésententes, parce qu'on tombe dans des sujets qui sont très sensibles, ça peut toucher la fin de vie. Et donc si on peut avoir cette grande responsabilité que d'anticiper, de mettre à l'abri ses proches, parce qu'ils n'auront pas à débattre sur le sort qui sera le nôtre, je trouve qu'effectivement, c'est faire preuve de sagesse et ça évite beaucoup de souffrance.
C'est certain. Et surtout, je pense d'en parler autour de soi. Parce que de ne pas être après dans les mauvaises surprises, de dire « Ah, je ne savais pas que tu avais désigné cette personne pour être mandataire sur un mandat de protection future », de vraiment d'en parler à son entourage, de dire « Voilà, cette personne est désignée ». On en a parlé et elle sait mes volontés.
Exactement.
Maître, avons-nous tout dit sur ce sujet ?
Tout, jamais, mais l'essentiel a été dit.
Ah, merci. Ça, une très belle conclusion, encore une fois, de Maître Céline Lindot. Maître, nous allons vous retrouver dès la semaine prochaine pour encore une fois un nouveau sujet qui est fort intéressant. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps qui, pour vous, est très précieux. On le sait, vous êtes très occupé, mais merci d'accorder à nos auditeurs votre temps et vos éclaircissements. Alors, Maître Céline Lindot, on vous retrouve certes sur Diva FM, mais à votre cabinet sur Marseille.
Effectivement, si vous avez besoin d'un conseil, d'une consultation, d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 04 86 01 28 70 ou par le formulaire de contact du cabinet que vous trouverez sur le site internet www.lindot-avocat.fr.
Nous vous rappelons que cette émission est de nouveau sur le site, vous pouvez la réentendre sur le site de la radio de Diva FM, www.diva-fm.fr, et vous retrouvez également les coordonnées de notre avocate. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne écoute sur Diva FM et Maître, à vendredi prochain pour une émission de...
De quel droit ?
Ah, ça va. De quel droit, vendredi prochain. Bye.